Le 16 avril 2018, je partais sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Voici mon histoire. Plus fréquenté que la Via Polonensis, le Camino Frances était très différent de ce que j'avais pu vivre en France. Toutes les nations y sont représentées, du coréen au ricain, du français à l'espagnol, sans oublier l'australien et j'en passe. Le balisage rouge et blanc des sentiers étroits laissait place à de larges chemins jonchés de flèches jaunes que ce peuple pèlerin suivra pour guide jusqu'au sanctuaire de l'apôtre. Nouveau pays, nouveaux pèlerins, qui pour la plupart débutaient leur pèlerinage depuis Saint-Jean-Pied-de-Port. Ajoute à cela mon changement de cap spirituel, mon nouvel état d'esprit qui avait ouvert le champ des possibles, cela me donnait l'impression d'entamer un nouveau pèlerinage. La récente découverte de ma non-vocation au sacerdoce ne m'effrayait pas. Je n'avais plus d'autre but dans la vie que de me rendre à Santiago. L'après-Compostelle n'existait pas. Comme si la mort m'y attendait, je m'y rendais, paisiblement, sans hâte, ni atermoiement, marchant vers une fatalité ni sinistre, ni joyeuse. Elle était, c'est tout. J'avançais inexorablement au rythme des étapes, méditant sur les différentes rencontres que j'y faisais. Je pensais particulièrement à Martha, rencontrée à Los Arcos. Elle m'avait confié ses troubles quant à l'un, si ce n'est le plus grand mystère de l'existence, l'amour. Sa vie amoureuse fut longtemps entachée de dépression, dont l'origine se puisait dans les réminiscences de la violence de son enfance durcie sous les coups d'un père violent. Elle avait toujours fini par perdre l'objet de son amour, pensant ne plus rien éprouver pour eux. Une fois la rupture officialisée, elle se rendait compte qu'elle avait fait la plus grande erreur de sa vie. À chaque fois. Elle estimait que c'était sa croix sur terre, qu'elle devrait passer son existence à aimer, puis à se laisser dévorer par le doute, puis le regret. Que ses souffrances étaient un moyen d'expier ses péchés, de se tourner vers Dieu comme seul et unique amour à qui elle devrait se consacrer. Une rencontre, trois mythes, la souffrance comme salut de l'âme, l'amour fiction et la tyrannie d'un dieu exigeant d'être le seul objet d'amour des hommes. Ces trois mythes méritent, selon moi, d'être foutus définitivement dans la poubelle de l'histoire. À l'instar de la douleur qui indique au cerveau un problème d'ordre corporel, la souffrance morale indique à notre mental que l'être s'est encombré d'un poids devenu inutile, qui ralentit voire empêche l'évolution de l'âme. Il est de tradition judéo-chrétienne de croire, par goût du martyr, que la souffrance est un mal nécessaire à l'évolution de l'âme. Je suis volontiers prêt à accorder du crédit à cette thèse de Simpliste, à la seule condition que l'on considère que cette évolution est liée au dépassement de la souffrance et non à sa soumission. Elle n'est qu'un symptôme, un indicateur, un savant système d'alerte qui invite à changer de paradigme. Le courage ne consiste pas à endurer passivement la souffrance, mais à admettre son état de mal-être, trouver son point d'origine, l'accepter, puis s'en délester en créant une nouvelle réalité, en faisant la paix avec son passé et s'en libérant avec joie, pour laisser naître un nouveau soi plus élevé. On ne soigne pas la douleur en la niant, la refoulant ou la subissant, mais en trouvant la cause. Il en va de même pour la souffrance. Le mythe de l'amour-fiction est tout aussi coriace que la précédente croyance limitante. Il faut dire qu'on nous le vend à toutes les sauces dans les séries télé, les romans, les dessins animés, les films. Bon nombre de personnes sont persuadées par ce matraquage que l'amour consiste à ne pas débander de la journée. Avoir la culotte trempée du matin au soir, ne ressentir que le feu de la passion pour l'être aimé, H24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Mais il ne s'agit là que d'un mythe, d'une passion ou d'une névrose. Car ce sentiment de passion n'est qu'éphémère. Il ne dure que quelques mois ou années, tout au plus. Le temps de la découverte. Il retombe comme un soufflet lorsque l'on aperçoit chez l'autre une dissonance pénible dans le quotidien. Un ronflement, un masticage agaçant ou pire, une odeur de pied. Alors on croit ne plus aimer. L'autre ne m'attire plus comme avant, je me demande si je l'aime encore. Et pourtant, c'est là que l'amour véritable prend naissance. Lorsque l'on quitte la phase de découverte pour entrer dans la phase de partage. Lorsque l'on comprend que ce n'est pas parce que l'on ne ressent pas l'amour qu'il n'est plus là. Nous n'entendons pas toujours notre respiration, ce n'est pas pour autant que nous sommes en apnée. Il en va de même pour le ressenti amoureux. L'autre m'agace, je ne ressens pas d'amour. Je suis préoccupé par ceci, je ne ressens pas d'amour. Mais lorsque ma colère retombe, lorsque la paix revient, ne fût-ce que pour quelques secondes, j'entends à nouveau les battements de mon cœur pour l'autre. Ce n'est pas que je ne l'aimais plus, c'est que je n'étais plus en mesure de l'entendre. L'amour ne s'éteint jamais. L'ego ou l'orgueil, et bien souvent les deux, bouchent seulement le canal de réception. Seuls deux types de personnes sont capables de ressentir l'amour en permanence. Les névrosés, dans ce cas il ne s'agit pas vraiment d'amour mais d'obsession, de dépendance affective, et les êtres suffisamment éveillés spirituellement, en paix avec eux-mêmes. Ceux-là arrivent à ressentir l'amour 365 jours par an parce qu'ils sont capables d'entendre quoi qu'il advienne. Et pour achever le troisième mythe, cela ne provoque en aucun cas la colère de Dieu. Dieu n'exige pas que l'homme n'aime que lui, tel un enfant capricieux. Sinon, pourquoi nous aurait-il laissé pour consigne de nous aimer les uns les autres, bordel de merde ?
Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante. Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pisé. Dos pasos y ya te olvidé. Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste. Tres pasos creo mucho me parece.
Y cuando volverá,
je ne reviendrai pas.
Cuando volverá,
je suis si loin déjà.
Cuando volverá, un día o jamás. Y cuando volverá,
je fais le premier pas.
Cuando volverá,
et tu ne m'attends pas.
Cuando volverá.
Cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya sé. Tú me quisiste, yo te quise. Cinco pasos ya sin perderme, tanto me alejé. Cinco pasos y te perdoné. Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé. Mil pasos y más me quedo de pie.
Y cuando volverá,
je ne reviendrai pas.
Cuando volverá,
je suis si loin déjà.
Cuando volverá, un día o jamás. Y cuando volverá,
si tú no maintenant pas.
Cuando volverá,
j'ai fait le premier pas.
Cuando volverá.
Martha était fauchée comme les blés. Et pour une fois que j'avais un brin de pognon, j'avais préparé à manger pour deux dans l'alberg où nous étions. La conversation s'était poursuivie jusqu'à tard dans la nuit. Au matin, nous partîmes ensemble et pique-niquâmes de conserve, dans un pré proche d'un grand puits à ciel ouvert, dans lequel, pour le plus grand amusement des pèlerins, je m'étais baigné tout habillé tant il faisait chaud. Nous nous séparâmes en cet endroit. Elle souhaitait rester et j'avais besoin d'avancer. J'ai continué jusqu'à Biana. Il s'y trouvait un petit donativo, aussi rustique que rudimentaire, où les pèlerins étaient invités à dormir les uns à côté des autres sur un tapis de sol. Ce refuge était aussi chaleureux que son hospitalier. Parti dans une grande déglingue philosophico-théologique, il m'invita à boire un coup au bar du coin. Il m'y confia sa perplexité quant à une autre pèlerine qui avait refusé de dîner avec nous parce que le repas se trouvait être à moins d'une heure de la messe et qu'il lui était impossible de manger avant de communier. J'étais aussi perplexe que lui. Refuser de rompre le pain avec ses frères et d'en partager la table pour mieux se rapprocher du Christ me semblait antinomique. Au lever du soleil, j'ai marché jusqu'à l'Ogronio. L'étape était courte, je me sentais en forme, j'en ai profité pour continuer un peu plus loin. Ce qui me conduisit à Navarrete, où une naissante douleur à la jambe me força à y passer la nuit. J'y ai trouvé refuge sous l'avancée d'une petite chapelle. L'endroit était parfait pour y établir un campement pour la nuit. La pluie tombait lorsque j'entendis un groupe arriver près de la chapelle. Il s'agissait de touristes français venus visiter la dite, accompagnés d'un guide. Celui-ci expliqua que la devanture avait volontairement été avancée pour abriter les quatre bancs en pierre, offrant ainsi un abri aux pèlerins les plus démunis. J'ignore si ce qu'il disait était vrai ou s'il cherchait à attirer la compassion à mon égard, toujours est-il que cela m'a valu une pluie de monnaie de la part des touristes. J'ai dormi comme un bébé devant cette chapelle. Les nuages de pluie s'en étaient allés pour découvrir un magnifique ciel étoilé, et le murmure de l'air venait me chanter sa plus douce berceuse. Au réveil, j'ai marché jusqu'à Nájera. Ma jambe me tiraillait toujours autant, et ne souhaitant pas me retrouver dans le même état qu'en France, forcé à faire une pause de 3 jours, j'ai préféré faire escale au donativo de la ville. Une immense auberge où s'y trouvent plus d'une centaine de lits. J'eus la joie d'y retrouver Luc, un Allemand rencontré à Saint-Jean-Pied-de-Port, et de faire la connaissance de Didi, une Tchèque des plus volubiles. La nuit fut très courte. Les concours de ronflement m'avaient empêché de dormir. C'est la tête dans le fondement que j'ai cheminé toute la journée suivante pour faire étape à Gragnon. Il s'y trouvait un magnifique gîte paroissial, au sein même de l'église. Nous étions près d'une 60aine de pèlerins à y crêcher. Par chance, nous avons eu la grâce d'avoir Pépé pour hospitalier, un grand gaillard très spirituel qui a enchanté la veillée d'avant-coucher. Grand moment d'émotion où bon nombre d'entre nous ont laissé s'échapper quelques larmes. Après avoir passé la nuit dans de rudimentaires conditions, à dormir les uns contre les autres, ce qui fait aussi le charme de ce lieu d'accueil, j'ai prolongé le petit-déj au café du coin. D'autant que je souhaitais faire tamponner ma créanciale en ce lieu. Le donativo se faisait fort de tamponner les cœurs plutôt que le passeport du pèlerin. C'est en ce café que je fis la rencontre de Sébastien, un sympathique jeune homme de 22 ans au regard triste. Il faisait le chemin à sa façon, tantôt à pied, tantôt en skateboard, tantôt en stop. Celui-ci me confia s'être complètement perdu. Au sortir de ses études, il s'est retrouvé propulsé dans le monde du travail qui n'était pas prêt à l'accueillir. Il s'est retrouvé à prendre peur, se dire qu'il s'était peut-être trompé d'orientation, puis ses flips furent trop lourds à porter pour sa petite amie qui l'avait quitté sans un mot d'adieu. Après 1 an à chichonner sur le canapé d'un pote guère plus stable que lui, il s'est décidé à partir à la recherche de lui-même. Si la plupart des pèlerins partent en quête d'eux-mêmes, à la recherche de qui ils sont véritablement, ce qui était mon cas aussi, je réalisais en répondant à Sébastien qu'au fond cela n'a pas grande importance. Qu'à l'image du grand barbu, nous sommes des êtres trinitaires dotés d'un corps, d'un esprit et d'une âme, du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Lorsqu'on en a conscience, lorsque les trois sont en harmonie, parfaitement alignés, il jaillit de nous une immense puissance créatrice, sans fin, capable de faire prendre vie à d'extraordinaires réalités, si tant est que nous en ayons la foi. C'est là notre base commune. Nous sommes de cette essence divine. Une fois compris cela, il nous appartient de choisir qui nous souhaitons devenir. Qui je souhaite être ? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, simplement un choix. Celui d'élever son âme, de laisser s'exprimer la meilleure version de nous-mêmes, qui n'aspire qu'à l'ascension. choisir d'être acteur et non spectateur de sa vie, de créer et non de subir, d'être celui qui est, et d'en faire l'expérience. Car nous ne sommes que lorsque nous en faisons l'expérience avec les autres. À partir de là, notre foi peut déplacer des montagnes. C'était mon chemin de Compostelle, que vous pouvez réécouter en podcast sur flavienbernard.fr dans la rubrique radio, ainsi que sur toutes les plateformes de streaming. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite un bon chemin.